Vous écoutez, on lit pour vous.
L'Arctique se verdit et relâche du carbone. Un texte d'Éric-Pierre Champagne paru le 12 février 2025 dans la presse. En raison du réchauffement planétaire, la capacité de la région arctique boréale à capter du carbone en prend pour son rhume, confirme une étude parue dans la revue Nature Climate Change. Un tiers de cette région est dorénavant émettrice de CO2, un virage qui préoccupe les scientifiques. Comment la région arctique, où il n'y a pratiquement aucune activité humaine, peut-elle émettre du carbone? Il faut savoir que les sols de la région arctique boréale, le pergélisol, contiennent près de la moitié des stocks de carbone terrestre sur la planète, rappelle l'étude menée par une équipe de chercheurs internationaux. Ce carbone est relâché au fur et à mesure que la région se réchauffe, provoquant le dégel du pergélisol. La libération de ce carbone du sol dans l'atmosphère sous forme de CO2 pourrait considérablement exacerber le changement climatique, écrivent les auteurs de l'étude. Comment cela pourrait-il exacerber le changement climatique? C'est ce qu'on appelle le principe de la boucle de rétroaction positive. Le réchauffement planétaire entraîne le dégel du pergélisol dans l'Arctique, relâchant du même coup du carbone dans l'atmosphère. La hausse du CO2 atmosphérique amplifie le réchauffement planétaire, ce qui accentue davantage le dégel de pergélisol, relâchant encore plus de carbone dans l'atmosphère. Évidemment, ces émissions de CO2 s'ajoutent à celles issues directement des activités humaines, comme les transports qui sont toujours à la hausse. Il s'agit d'un changement crucial, car ces systèmes ont toujours été des puits de dioxyde de carbone. Bien que les efforts de modélisation aient prédit que ce changement se produirait à l'avenir en raison de facteurs tels que le dégel du pergélisol, le fait qu'il se produise déjà dans un si grand nombre de régions est significatif, signale l'auteur principal de l'étude, Anna Virkala, climatologue au Woodwell Climate Research Center. Où se situe exactement la région arctique boréale? Elle regroupe entre autres l'Alaska, la Sibérie, le nord du Canada et des pays scandinaves. Ces régions ont longtemps été complètement gelées, stockant ainsi d'immenses quantités de carbone dans le sol. Est-ce que toute la région arctique relâche du carbone? La réponse est non. Du moins, pas encore. Les auteurs de l'étude ont estimé que plus de 30% de la région était devenue une source d'émissions de CO2. Une proportion qui passe à 40% si on tient compte des incendies de forêt survenus dans cette région. En analysant plusieurs données, les scientifiques ont constaté que la région s'est transformée entre 1990 et 2020 en raison du réchauffement planétaire. C'est pendant la période comprise entre 2001 et 2020 qu'ils ont observé que le tiers de la région était devenu émetteur de carbone. L'Arctique devient donc de plus en plus vert. C'est le cas, en effet. Une tendance qu'on observe de plus en plus facilement grâce à des images satellites, dont celle de la NASA. Une étude publiée en 2018 dans la revue Nature Climate Change prévoyait d'ailleurs que 80% du territoire terrestre de l'Arctique pourrait se verdir d'ici la fin du siècle en raison du réchauffement planétaire. Ainsi, le verdissement de l'Arctique n'est pas une bonne nouvelle. D'un point de vue climatique, ce n'est certainement pas une bonne nouvelle. Les scientifiques qualifient d'ailleurs cette région de « bombe à retardement pour le climat ». En plus du CO2, le pergélisol contient également de grandes quantités de méthane, un gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement est beaucoup plus élevé. Une hausse significative des émissions de méthane aurait des conséquences importantes à l'échelle planétaire. Y a-t-il d'autres exemples de puits de carbone qui deviennent des zones émettrices de CO2? L'un des exemples les plus connus est la forêt amazonienne au Brésil, longtemps reconnue comme un important puits de carbone, permettant d'absorber environ 15 % à 20 % des émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines. Or, le bilan carbone de cette région a été bouleversé au cours des dernières années. Selon une étude parue dans Nature Climate Change en 2021, l'Amazonie brésilienne a émis environ 18 % de plus de carbone qu'elle n'en a absorbé entre 2010 et 2019, principalement en raison de la déforestation. Selon une autre étude parue en 2024, les principaux puits de carbone terrestre sur la planète se sont effondrés en 2023. Les forêts et les sols ont absorbé environ le quart du carbone qu'ils captent habituellement, principalement en raison de la sécheresse en Amazonie et des incendies de forêt au Canada et en Sibérie. Si cet effondrement se reproduisait dans les prochaines années, nous risquons d'observer une augmentation rapide du CO2 et du changement climatique au-delà de ce que prévoient les modèles, a affirmé l'un des auteurs de l'étude, le climatologue Philippe Thiet, dans une entrevue au quotidien Le Monde en juillet 2024. C'était l'article « Se verdit et relâche du carbone », un texte d'Éric-Pierre Champagne paru le 12 février 2025 dans La Presse.
Histoire des communautés noires au Québec. Un texte de Dorothy Williams paru sur la page de la Table ronde du mois de l'Histoire des Noirs. 360 ans d'histoire. L'histoire des Noirs à Montréal s'étend sur plus de 360 ans et commence dès les débuts de Ville-Marie. Les Noirs ont contribué à l'essor et au dynamisme de Montréal, ajoutant au caractère exceptionnel de la ville. Ils ont aidé de différentes façons à faire connaître la métropole québécoise, notamment en participant à la création et au soutien de l'infrastructure des transports de la ville, puis en faisant de Montréal un carrefour du jazz de premier plan en Amérique du Nord, et enfin, en réalisant de grandes découvertes scientifiques et médicales d'une portée considérable. Mais les Noirs se sont-ils établis au départ sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal? Quelle a été l'évolution de leur répartition dans l'espace urbain montréalais? Au fil des décennies et jusqu'au 20e siècle, les Afro-Canadiens, les Afro-Américains et ultérieurement les Antillais quittèrent le Vieux-Montréal en suivant le mouvement migratoire résidentiel vers l'ouest, le long de la rue Saint-Antoine. Les Noirs occupèrent les espaces résidentiels des rues Saint-Antoine, Saint-Jacques et à un moindre degré Notre-Dame, toutes dans l'axe est-ouest. Ils privilégiaient ces artères car, à cause de pratiques racistes, l'accès aux artères nord-sud du quartier Saint-Antoine leur était refusé. Dès le milieu des années 1960, toutefois, la petite Bourgogne n'était plus le quartier de choix, conséquence d'un vaste réaménagement urbain qui avait évincé des centaines de familles de leurs logements insalubres. Les immigrants noirs anglophones tirèrent parti des nouvelles possibilités de logement qui s'ouvraient du côté de Notre-Dame-de-Grâce et de Côte-des-Neiges, et furent plus nombreux encore à s'établir à Verdun et dans le centre-ville. Un modèle démographique similaire apparut dans la communauté haïtienne, même si celle-ci se distinguait sur les plans linguistiques et culturels. Les Haïtiens avaient au départ un statut socio-économique plus élevé que la majorité des Noirs anglophones. De la première vague d'Haïtiens francophones arrivée dans les années 1960, 93 % étaient des cols blancs en 1965. En 1972, ce noyau comptait 3539 membres de professions libérales bien nantis. Un deuxième groupe d'immigrants haïtiens fit son entrée lentement à Montréal à partir de 1968. Composé majoritairement d'ouvriers et de cols bleus, ce groupe devint majoritaire au sein de la communauté haïtienne. Encore peu nombreuses à cette époque, celles-ci vivaient en dehors des quartiers centraux où habitaient les Noirs de langue anglaise. En 1977, on estimait à 17 000 personnes officiellement la population haïtienne dans la région de Montréal. En 1981, 25 850 Haïtiens y habitaient, et en 1986, leur nombre passa à 38 000. Malgré un niveau d'instruction relativement élevé, 25 % de ces Haïtiens étaient au chômage. Ils étaient confinés dans les secteurs de la fabrication et des services, et leur revenu moyen n'atteignait que la moitié de celui de l'ensemble des Québécois. Comme chez les Noirs anglophones des générations précédentes, cet écart entre le niveau d'éducation et les possibilités d'emploi se traduisait notamment par un choix restreint en matière de logement pour les Haïtiens. Ceux-ci s'établirent principalement dans les quartiers du centre, du nord et du nord-est de Montréal, Mile-End, Montréal-Nord, Saint-Michel, Parc Extension, Rivière-des-Prairies, Villeray, etc. Des années 1970 au milieu des années 1980, de nouveaux résidents, les Noirs d'Afrique, commencèrent à s'établir à Montréal. Ils venaient de pays de langue anglaise, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria et l'Égypte. Des Africains francophones arrivaient également du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo et du Zaïre. Dans les années 1990, les statistiques révélaient que 23,8 % des Africains entrés au Canada s'étaient installés au Québec. La communauté noire montréalaise, contrairement à celle d'autres centres urbains, n'a jamais vécu dans un ghetto ni dans une enclave. Les Noirs ont plutôt toujours été une composante peu nombreuse mais visible des communautés où ils se sont installés. Le 23 novembre 2006, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi visant à faire du mois de février le mois de l'histoire des Noirs, afin de souligner la contribution historique des communautés noires à la société québécoise. Cette loi entre en vigueur le 1er février 2007. C'était « Histoire des communautés noires au Québec », un texte de Dorothy Williams paru sur la page de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs.
Les Québécois se sentent nord-américains et loin de la France, révèle un sondage. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 16 janvier 2025 dans Le Devoir. Le Québec n'est pas, encore, un nouvel État des États-Unis, mais c'est à coup sûr une zone culturelle nord-américaine. Un sondage tout récent montre qu'une très large majorité des Québécois se sentent beaucoup plus près culturellement du reste de l'Amérique que de la France. L'enquête de la firme Léger réalisée entre le 29 novembre et le 2 décembre 2024 auprès d'un échantillon de 1002 résidents du Québec a posé la question suivante. Vous, personnellement, vous considérez-vous comme plus proche de la culture de la France ou plus proche de la culture nord-américaine? La conclusion devient imparable. Les trois quarts, 73 % des Québécois choisissent leur coin du monde et à peine un sur six, 16 % optent pour l'Europe. Un sur dix, 12 % refuse de répondre ou ne se décide pas, peut-être faute de pouvoir répondre, les deux. Les résultats ne varient d'ailleurs pas beaucoup en fonction de l'âge, du genre et même de la langue. Les non-francophones se disent plus nord-américains à 77 % et les francophones à 71 %. Le pourcentage de Québécois parlant le plus souvent français à la maison est de 77,5 % selon les données de Statistique Canada de 2021. Le sondage, obtenu en exclusivité par Le Devoir, a aussi mesuré notre sentiment à l'égard de la France. Dans ce cas, une majorité de francophones, 52 % s'en disent éloignés et seulement 5 % très proches. Le groupe s'identifiant à la France est plus nombreux à Montréal, 19 % et chez les diplômés universitaires, 25 %. Nous ne sommes pas des Français d'Amérique, comme le disait le général de Gaulle. Nous sommes des Nord-Américains francophones, résume le professeur Guy Lachapelle de l'Université Concordia. Le sondage a été commandé par le Centre d'études sur les valeurs, attitudes et sociétés, CEVAS, qu'il dirige. Un premier sondage réalisé en 2022 arrivait en gros au même constat. Ces enquêtes s'inspiraient d'une autre menée auprès des jeunes d'ici en septembre 2002 et commanditée par le Consulat général de France au Québec. Ce portrait avait déjà établi essentiellement que les jeunes Québécois s'identifiaient comme Nord-Américains. L'impérialisme annexionniste. Les déclarations expansionnistes du président Donald Trump semblent signaler le retour d'une doctrine du 19e siècle. La tentation d'intégration, volontaire ou pas, ressurgit périodiquement depuis la fondation de la République américaine. L'américanité canado-québécoise est discutée depuis presque aussi longtemps. Les livres sur le sujet remplissent les rayonnages. L'américanisation, elle, se vérifie partout depuis des décennies dans l'aménagement des villes, les transports ou la surconsommation. Elle s'amplifie grandement avec la révolution numérique et le basculement de la culture sur les écrans. L'influence des États-Unis se fait sentir profondément partout, dans toutes les sphères d'activité, dans la culture populaire comme dans les départements universitaires. Cette influence impériale se mesure dans bien d'autres pays occidentaux. Dans ses derniers livres, « La France sous nos yeux », paru en 2021, et « La France d'après », paru en 2023, le sondeur Jérôme Fouquet montre un pays, lui aussi, sous perfusion culturelle américaine croissante. Les preuves versées vont de l'habillement à la surconsommation, des films aux téléséries, des centres commerciaux au fast-food et jusqu'au barbecue. En même temps, les différences marquées persistent ici et là. Le Québec se démarque encore par la langue française, ses institutions, son état-providence fort, les garderies, l'assurance médicaments, les congés parentaux, les études abordables, sa défense de la laïcité, mais aussi par la faiblesse de la religion dans les débats publics, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Être de culture nord-américaine, ça ne veut pas dire qu'on accepte toutes les valeurs nord-américaines, résume le professeur Lachapelle, présentement en année sabbatique pour écrire un essai sur le sujet. Le Québec se retrouve clairement dans les valeurs social-démocrates. Le territoire et la carte. Il verse cette fois comme preuve une carte des valeurs de différents pays tracée en 2023 à partir d'enquêtes internationales du réseau World Values Survey. La classification délimite 8 grandes zones: confucianisme, christianisme orthodoxe, Afrique et Islam, Amérique latine, Asie du Sud et de l'Ouest, Europe catholique, Europe protestante, pays de langue anglaise. Le Québec, détaché du Canada, se rapproche alors clairement des pays européens ayant une tradition protestante. On y retrouve aussi l'Allemagne, les pays scandinaves, les Pays-Bas et la Suisse. Le reste du Canada se classe avec les pays européens catholiques, dont l'Espagne, l'Autriche ou la France. Les États-Unis se positionnent évidemment avec les peuples de langue anglaise. Comme l'aurait dit Winston Churchill, mais dans une zone quasi autonome. Une proximité toute relative s'établit alors entre la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais aussi le Canada dans son ensemble, incluant toutes les provinces, y compris le Québec. On en perd son latin. On a une vie très américaine, mais des valeurs très européennes aussi. Sans oublier l'influence britannique, commente Guy Lachapelle, avant de conclure sur la nécessité de défendre ses particularités. Il faut résister et défendre nos valeurs distinctes. Résister, ça veut dire se battre sur le front politique, prendre notre place pour défendre notre culture, nos intérêts et notre façon d'exister. Il faut aussi trouver des appuis aux États-Unis dans ce combat. Il faut faire valoir les atomes crochus avec certains éléments de la classe politique américaine. Trump, ce n'est pas toute l'Amérique. C'était « Les Québécois se sentent nord-américains et loin de la France », révèle un sondage. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 16 janvier 2025 dans Le Devoir.
Combien donner en pourboire? Une experte nous répond. Un texte de Frédéric Charret, paru le 6 janvier 2025, dans Virage. Entre ce qui nous semble juste, les pratiques généralement reconnues et l'avènement de nouvelles technologies et de nouveaux services, vous vous demandez peut-être combien donner en pourboire pour ne pas paraître radin, trop généreux, ou carrément commettre un faux pas. Commenté par une spécialiste de l'étiquette, voici un petit guide pour connaître les montants à offrir et à qui. D'entrée de jeu, précisons qu'un pourboire représente une gratification qui vise à remercier une personne qui fournit un service. Dans plusieurs domaines, la restauration par exemple, le pourboire vient compléter un salaire souvent peu élevé. Il n'existe cependant aucune règle prédéterminée, mais plutôt des recommandations fondées sur l'usage, la courtoisie et l'étiquette. Donner un pourboire n'est pas obligatoire. Aucune loi au pays ne nous y contraint. Il faut garder en tête que l'étiquette n'est pas statique. Elle évolue avec la société, incluant le pourboire. Également, au départ, tous les comportements qui y sont reliés sont culturels. Si on prend le cas de l'Australie, la pratique du pourboire n'est pas usuelle. En Angleterre, si vous allez prendre une bière dans un pub et que vous laissez de l'argent au serveur, vous risquez de l'insulter, relate au passage Julie Blais-Como, fondatrice de la Société de formation et de développement Étiquette Julie, étiquettejulie.com. La spécialiste nous explique ce qu'il convient d'offrir en pourboire au Québec selon les produits et services reçus. Au restaurant. Dans un restaurant avec service aux tables, on calcule 15% de l'addition, incluant le vin et avant les taxes. Pour un service que l'on juge exceptionnel, on peut se rendre à 20%, parfois même davantage. Dans un resto, apportez votre vin. On ajoute 2 $ par bouteille ouverte par le serveur. S'il s'agit d'un buffet, un pourboire équivalent à 10% de la facture est habituellement de mise. On doit se rappeler qu'au Québec, le salaire minimum des employés dans les restaurants et bars est inférieur à celui des autres travailleurs. Pour ces personnes, le pourboire permet d'avoir un revenu décent, commente la spécialiste de l'étiquette. En ne versant pas ce petit supplément, on peut empêcher quelqu'un de joindre les deux bouts. Qu'il ait été perçu ou non, il est à noter que les serveurs doivent déclarer au fisc un minimum de 8% de pourboire. On devrait toutefois s'abstenir de toute gratification en restauration rapide ou quand on achète sa commande au comptoir, et ce, peu importe ce que le terminal de paiement peut nous suggérer. D'ailleurs, à compter du 7 mai, les options de pourboire sur les terminaux devront être présentées de façon neutre et uniforme. Ainsi, vous aurez toujours la possibilité de choisir facilement vous-même le montant. Fini donc la confusion et le sentiment de culpabilité au moment de payer. Dans un bar, on compte 1 $ par consommation. Au vestiaire, c'est 1 $ si le service est gratuit et rien s'il est payant. Service de livraison. Les services de livraison foisonnent. Comment s'y retrouver? On offre 10% de l'addition pour les livreurs de restaurants. Concernant les services de type Uber Eats ou DoorDash, il est suggéré d'accorder une rétribution de 15 à 20 du total de la facture à la personne qui transporte la commande, puisque celle-ci ne reçoit aucun salaire ni avantage, comme pour l'employé d'un restaurant. Le montant peut varier en fonction de sa rapidité, de la distance qui a été parcourue et des conditions météo. À l'hôtel, femme ou valet de chambre, pas obligatoire, sinon 2 $ par jour. Service aux chambres, 2 $. Bagagiste, 1 $ par valise. Guide touristique, 10 $ par personne s'il a répondu aux attentes. En rafale, taxi, pas obligatoire, mais on recommande un pourboire correspondant à 10 ou 15% de la course. Si le chauffeur dispense un service, par exemple, placer les bagages dans le coffre. Soins professionnels. Rien aux médecins, dentistes, chiropraticiens, physiothérapeutes, ni aux propriétaires de salons de coiffure, d'esthétique, de manucure ou de massothérapie. On prévoit toutefois un pourboire de 10 à 15% pour l'employé du salon qui donne les soins. Caddie de golf, de 15 à 20% du coût du départ. Déménageur, 20 à 30 $ en guise de remerciement lorsqu'un effort important a été fourni. Les personnes aînées sont susceptibles de recevoir certains services à domicile. Si ceux-ci sont offerts par l'État, une institution ou encore un organisme, il ne devrait jamais y avoir de pourboire ou d'échange d'argent, ajoute Mme Blais-Comeau. À ce moment, on se tournera plutôt vers un cadeau, telle la fameuse boîte de chocolat. Si on paie de sa poche, on donne, une fois par année, un bonus qui a à peu près la valeur du service obtenu régulièrement. La spécialiste de l'étiquette conclut en indiquant que, dans le doute, on se renseigne. En téléphonant ou en arrivant quelque part, on peut très bien demander ce qui est usuel comme pratique. C'est parfaitement acceptable. Aussi, lorsqu'on est insatisfait du service, on laisse quand même un pourboire. Mais on prend son courage à deux mains et on signifie son mécontentement. Pas nécessairement sur le coup, mais au moins en le faisant après. C'était « Combien donner en pourboire ?» Une experte nous répond, un texte de Frédéric Charret, paru le 6 janvier 2025 dans Virage.